Chapitre 31. Les fourcaudes. Violetta fut jetée dans la litière par Belgodère qui y monta alors. Fausta se remit en selle. Sur un signe qu'elle fit, les quatre cavaliers entourèrent la litière. Quant à elle, elle se mit en avant et toute la petite troupe commença à descendre dans la nuit. Bientôt, ils furent sur Paris. Fausta gagna la rue Saint-Antoine et se dirigea droit sur la Bastille. La litière s'arrêta devant la porte qui faisait face à la rue Saint-Antoine. Fausta prononça un mot et l'un des cavaliers de l'escorte, en bouchant un corps, jeta dans la nuit un triple appel qui résonna lugubre dans le grand silence du quartier endormi. Quelques minutes se passèrent, puis on vit des lumières de lanternes de l'autre côté du fossé, les chaînes du pont-levis grincèrent, le tablier s'abattit. La litière passa, s'engouffra sous une voûte noire et s'arrêta enfin dans une cour étroite. « Le gouverneur !» demanda Fausta au sergent d'armes. « Si vous voulez me suivre, je vais vous conduire à lui, » dit le sergent. Fausta mit pied à terre et désigna la litière. « Il y a là une prisonnière. Si elle s'échappe, tu seras pendu à l'aube sans procès. » Le sergent sourit. Il donna un ordre à deux geôliers qui l'accompagnaient. Quelques minutes plus tard, Violetta était enfermée dans un cachot. Belgodère et l'escorte restèrent dans la cour, près de la litière. Fausta suivit le sergent que précédait un homme portant un falot. Ils montèrent un escalier. Dans le couloir, un homme accourait, achevant de s'habiller en hâte. « Voici, monsieur le gouverneur, » dit le sergent. « J'ai entendu le signal du corps, » fit Bussy Leclerc en cherchant à dévisager Fausta, et comme, après monsieur le duc de Guise, il n'y a qu'une personne au monde qui connaisse le signal. « Cette personne, c'est moi, » dit Fausta impérieusement. « Entrons chez vous, monsieur de Bussy, nous avons à causer. » « Je suis à vos ordres, madame, » dit Bussy Leclerc en reconnaissant une femme dans ce jeune cavalier qui lui parlait avec tant d'autorité. Bussy Leclerc se mit à précéder Fausta jusqu'à son appartement où il la fit entrer. « Monsieur, dit Fausta, on vous a prévenu aujourd'hui ou dans la soirée que je vous viendrai voir pour affaires d'importance. » « Madame, dit Bussy Leclerc en dévisageant Fausta, on m'a prévenu qu'un messager de Monseigneur le Duc m'apporterait cette nuit des ordres. Mais j'étais loin de me douter que le porteur d'ordre serait l'adorable messagère dont la présence enchante ces tristes lieux. » Bussy frisa sa moustache et se campa pour attendre la réponse à sa galanterie. Un fugitif sourire de mépris crispa la lèvre de Fausta. « Vous avez ici, dit-elle, deux prisonnières qu'on appelle les fourcaudes. » « Oui, madame, dit le soudard, étonné que son compliment n'eût pas produit plus d'effet. « Ces prisonnières doivent être livrées à la justice du peuple ?»« Dès demain matin, madame, chose promise, chose due, nous tenons parole, nous autres. Le peuple veut pendre et brûler les fourcaudes. Il les pendra et les brûlera. » Bussy Leclerc se redressa de toute sa hauteur, espérant cette fois avoir produit un effet de terreur, puisque la galanterie lui avait si peu réussi. « L'une des deux fourcaudes, dit Fausta, sera pendue et brûlée. Quant à l'autre, vous allez la remettre en liberté. » « Oh, oh, ceci est impossible, madame !» s'écria Bussy Leclerc en sursautant. « J'ai promis au peuple deux hérétiques à pendre, il les aura. Jamais Bussy Leclerc n'a manqué à sa parole. » « Vous tiendrez parole, messire Leclerc. Comment s'appellent les condamnés et quel est leur âge ?»« L'aînée, Madeleine, elle a 20 ans environ. La cadette, Jeanne, elle paraît 16 ans. C'est celle-ci que vous allez relâcher. Madeleine sera livrée. Il y a grâce pour Jeanne. S'il y a grâce pour l'une des condamnées, comment pourrais-je livrer les deux hérétiques ? Ne vous en inquiétez pas. L'essentiel est que Jeanne Fourcault est graciée. Et qui lui fait grâce ? Moi ! Vous, madame, dit Bussy Leclerc, stupéfait du ton d'autorité de cet inconnu. Et qui êtes-vous ? Vous êtes, il est vrai, entré ici grâce à un signal que seuls connaissent les plus intimes de Monseigneur. Mais ce n'est pas une raison suffisante. « Lisez donc ceci, interrompit Fausta en tendant un papier à Bussy Leclerc qui, étonné, le prit, s'approcha d'un flambeau et le lut. Le papier portait la signature et le sceau du duc de Guise. Il contenait ces lignes. « Ordre à nos officiers de tout rang, en quelque lieu et quelque occasion que ce soit, sous peine de la vie, d'obéir à la princesse Fausta, porteuse des présentes. »« La princesse Fausta ? » murmura sourdement Bussy Leclerc. Il jeta un regard d'ardente curiosité sur Fausta et, s'inclinant très bas, lui rendit le parchemin en disant « J'obéis, madame. »« Bien, conduisez-moi donc auprès des Fourcaudes, ou plutôt auprès de la plus jeune. » Sans dire un mot, Bussy Leclerc, de plus en plus étonné, s'empressa de prendre un flambeau et se mit à précéder sa visiteuse. Dans le couloir, il retrouva le sergent et lui dit quelques mots à voix basse. Le sergent s'inclina et prit les devants en courant. Bussy Leclerc, toujours suivi de Fausta, descendit un escalier et parvint dans la cour où attendaient la litière et les quatre cavaliers d'escorte. Là, on trouva les deux geôliers prévenus par le sergent. Tout ce monde regardait avec étonnement le gouverneur qui marchait devant l'inconnu, un flambeau à la main, comme s'il eût escorté une reine. Fausta aperçut le sergent et lui dit « Va me chercher ma prisonnière !» Quelques minutes plus tard, Violetta apparaissait entre deux soldats qui la tenaient chacun par un bras. Elle frissonnait d'épouvante, mais n'opposait aucune résistance. Elle sentait qu'en vain elle se fût débattue. « Marchez !» dit alors Fausta à Bussy Leclerc. Il se dirigea vers une porte basse, accompagnée des deux porte-clés. Derrière eux venait Violetta, éperdue. Puis venait Fausta, qui ne la perdait pas de vue, et souriait, pareil à l'ange de la mort. Le sergent fermait la marche. On descendit un escalier tournant qui s'enfonçait dans le sol comme une vis qui eût déchiré les entrailles de la terre. Vis rouillée par le temps, escalier moisi aux murs brillants de salpêtre. Les geôliers s'arrêtèrent devant une porte dont ils tirèrent les verrous. Fausta fit un signe. Tout le monde s'arrêta. Elle entra seule après avoir pris le flambeau des mains de Bussy Leclerc. Le cachot était étroit. Ses voûtes surbaissées semblaient peser d'un poids énorme sur les épaules. Dans un angle, accroupie sur le sol, une jeune fille aux traits amaigris, toute jeune, presque une enfant, se leva lorsque la porte s'ouvrit. Son front était calme, ses yeux brillaient d'un feu surhumain. Elle était belle, malgré sa pâleur, et dans son attitude, il y avait une sorte de défi. Cette jeune fille, c'était Jeanne Fourcault. « Vient-on me chercher pour le supplice ? » dit-elle. « Je suis prête. »« Jeanne Fourcault, » dit Fausta, « vous ne serez pas suppliciée. Vous vivrez. Non seulement vous vivrez, mais vous serez libre. »« Oh !» murmura l'infortunée. « Qui me parle ainsi d'une voix si douce ? Quel est l'ange qui se penche sur moi pour la première fois depuis que je suis dans cet enfer ?»« Jeanne Fourcault, » reprit Fausta, « je ne suis pas un ange. » Je suis simplement une femme qui a eu pitié de vos malheurs et qui a employé toute son influence à vous sauver. « Le roi me fait donc grâce de la vie ?» haleta la pauvre créature. « De la vie et de la liberté. Vous êtes libre. Venez !» Jeanne allait s'élancer, emportée par cette ivresse spéciale du condamné devant qui on prononce ce mot magique « liberté ». Soudain, elle s'arrêta plus pâle. Une pensée terrible venait de lui traverser l'esprit. « Et Madeleine » râla-t-elle. « Ma sœur ! Oh, madame, libre avec elle, oui ! Nous pleurerons ensemble notre malheureux père. Mais sortir d'ici, seule, sans Madeleine, non, j'aime mieux mourir !» Fausta eut une imperceptible crispation de contrariété devant cet obstacle imprévu. Mais elle sourit tout à coup, et plus douce encore, plus caressante et plus pitoyable. « Votre sœur Madeleine est sauvée comme vous. Elle est déjà hors de cette triste prison et vous attend. Venez !» Jeanne Fourcault s'abattit sur ses genoux, saisit les mains de Fausta et les couvrit de baisers. Une violente réaction se faisait en elle. Forte et calme devant la mort à laquelle elle se préparait, la brusque nouvelle de la vie et de la liberté assurée la terrassait. Elle sanglotait, elle laissait déborder sa reconnaissance avec ses larmes. La Faustat, d'un geste d'impatience, la releva, l'entraîna presque défaillante de bonheur. Dans le couloir, elle remit Jeanne Fourcault aux mains d'un geôlier et dit « Conduisez-la jusqu'à la litière !» Le geôlier obéit sur un signe de Bussy-Leclerc et entraîna la prisonnière graciée. Alors Faustat se tourna vers l'autre geôlier et lui désignant Violetta « Enfermez cette créature !» Violetta, devant la gueule ouverte du cachot, eut un recul instinctif et une sorte de gémissement râla sur ses lèvres. Mais la main du geôlier s'abattit sur elle et l'instant d'après, la porte se refermait lourdement, les verrous étaient poussés. D'un geste, alors, Faustat renvoya le geôlier et les deux soldats qui remontèrent l'escalier. Elle demeura seule avec Bussy-Leclerc. Un livide sourire plissa ses lèvres. « Pardéan ! » murmura-t-elle au fond d'elle-même. « Oseras-tu chercher ton amante jusque dans cette tombe ?» Bussy-Leclerc la contemplait avec un sentiment de terreur mêlé d'étonnement. Peu à peu, les bouillonnements qui faisaient palpiter le cœur de Faustat s'apaisèrent. Froidement, elle demanda à Bussy. « Vous ne comprenez pas ?»« J'attends que vous m'expliquiez. » « Où est Madeleine Fourcault ?» Bussy-Leclerc étendit le bras vers la porte d'un cachot voisin et dit « Là !» Faustat désigna le cachot où Violetta venait d'être jetée et elle dit « Et là se trouve Jeanne Fourcault !» Bussy-Leclerc, tout cuirassé qu'il fût contre les émotions sentimentales, ne put s'empêcher de frémir, devinant quelque formidable aventure de vengeance dans la substitution qui avait été exécutée. « Quoi ? » balbutia-t-il. « Cette jeune fille que vous avez amenée... »« Elle s'appelle désormais Jeanne Fourcault. Vous devez demain matin livrer les Fourcaudes à la justice du peuple. Vous les livrerez. Vous voyez bien, messire Leclerc, que vous ne manquerez pas à votre parole. » Lorsque Bussy-Leclerc et Faustat furent remontés à la surface de la terre, dans cette petite cour étroite et noire qui semblait un pur et large horizon à ceux qui avaient vu les cachots souterrains, Jeanne Fourcault fut placée dans la litière, presque évanouie par les premières bouffées d'air. Belgodère s'approcha de Faustat. « Tu veux savoir ce qu'est devenue la fille de Claude ? » demanda-t-elle. « Rien ne vous échappe, madame, » dit le bohémien courbé. Violetta, vous le savez, c'est mon espoir. Pardonnez-moi si j'ose vous interroger. Voilà 8 ans que Violetta m'appartient. Je la gardais jalousement pour... ce que vous savez. Enfin bref, au lieu de la vendre à Monseigneur le Duc, il se trouve que c'est à vous que je l'ai vendue. Je sens, je devine que l'heure est venue où je pourrai parler à Claude. Mais sais-tu seulement où il est ? « Non, mais je le trouverai, n'ayez crainte. Claude et moi, nous nous sommes toujours retrouvés. » Belgodère se redressa dans la nuit. Ses yeux brillèrent d'un tel éclat de haine qu'ils parurent jeter dans les ténèbres des lueurs phosphorescentes. « Voyons, reprit alors Faustat pensive, tu m'as toujours promis de me raconter ton histoire. Le moment est venu. Voici ce que tu vas faire. Tu vas reconduire la litière à l'abbaye. Mes hommes t'escorteront, puis te ramèneront à mon palais. Tu mettras la nouvelle prisonnière en lieu sûr. Et quand tu m'auras dit pourquoi tu hais Violetta, je te dirai, moi, ce qu'elle va devenir. « Oh, je suis tranquille, » dit Belgodère d'une voix sombre. « Je sais qu'elle est en bonne main. » « Monsieur le gouverneur, » dit tout haut Faustat en se tournant vers Bussy-Leclerc, « à quelle heure aura lieu le spectacle que vous avez promis aux Parisiens ?» Mais à la pointe du jour, je pense. C'est trop tôt, je veux en être. Il me semble que 10 heures du matin, ce sera une heure convenable. À vos ordres, 10 heures soit. Et où dressera-t-on les tréteaux ? Reprit Faustat. La place de grève, si ce lieu vous convient, me paraît le meilleur endroit. La place de grève me convient. Faustat remonta alors à cheval. Belgodère prit place près de Jeanne Fourcault. L'escorte s'ébranla. Une fois hors de la Bastille, Fossa donna un ordre à ses cavaliers. « Et vous, signor ?» dit celui auquel elle s'était adressée. « Vous rentrerez donc sans garde ?»« Moi ?» dit Fausta en levant le doigt vers le ciel étoilé. « Moi, comte, je suis gardé par celui qui m'a envoyé sur la terre. Allez !» La litière et l'escorte se dirigèrent alors par le chemin qu'elles avaient accompli en sens inverse. Fausta seule s'en alla vers la cité. Et soit qu'elle crût réellement à ce qu'elle venait de dire, soit qu'elle eût une bravoure extraordinaire pour une femme, elle n'eut pas un instant de crainte en traversant ces ruelles noires dont chacun était un coupe-gorge et où les plus hardis seigneurs ne se hasardaient que solidement armés et bien accompagnés. Belgodère, parvenue à l'abbaye de Montmartre, conduisit sa nouvelle prisonnière, c'est-à-dire Jeanne Fourcault, dans la masure où quelques heures auparavant était enfermée Violetta. Dans la pièce sans fenêtre, à la lumière d'un flambeau, il eut la curiosité d'examiner la remplaçante de Violetta. Elle avait des cheveux noirs frissonnants et de larges yeux noirs d'un éclat mystérieux, comme on en voit aux filles d'Orient. Belgodère, surpris de cette beauté qui ressemblait si peu au type de beauté parisienne, secoua la tête et, franchissant la porte, la referma à double tour. Jeanne tressaillit. Pourquoi l'enfermait-on ? Qu'est-ce que cette fille que je dois maintenant surveiller ? Du diable si je comprends quelque chose dans cette affaire et si je vois une lueur dans ces ténèbres. Croisse ! Que veut la signora Fausta ? Où me conduit-elle ? Bah ! Je vais le savoir tout à l'heure sans doute. Croisse ! Elle m'a dit, raconte-moi ton histoire et je te dirai ce que va devenir Violetta. J'y vais par l'enfer. Le bon moment approche. Croisse veillera sur la petite en mon absence. Croisse ! À ce troisième appel, Croisse ne répondit pas plus qu'aux deux premiers. Tu dors ? Gronda Belgodère. Tu as l'audace de dormir pendant que je travaille ? Attends un peu, misérable gibier de sac et de corde. « Attends, maître dormeur enragé. Je viens, va, ne te dérange pas. » En grommelant ses aménités, le bohémien avait saisi le fameux gourdin avec lequel Croas avait fait si ample connaissance et, sans hâte, montait l'échelle qui aboutissait à la soupente. Là, il eut une exclamation de rage. « Pas de Croas !» Belgodère, par acquis de conscience, asséna quelques coups dans le foin et, bien convaincu que Croisse avait déménagé, redescendit, chercha partout, parcourut l'enclos et dut enfin se rendre à l'évidence. Croisse avait disparu. Belgodère ne s'en inquiéta pas outre mesure. Il se reprocha seulement de n'avoir pas songé à enfermer son ancien Hercule et s'avoua, car il était juste au fond, que Croisse, après la formidable raclée, avait dû éprouver un légitime besoin de s'éloigner le plus possible de la trique en question. Il réfléchit que, d'ailleurs, cette nouvelle prisonnière dont il ne savait pas le nom et qui lui importait médiocrement ne pourrait s'évader de sitôt et, sans prévenir l'abbesse, alla retrouver les cavaliers de Fausta qui l'attendaient pour le ramener au palais de la cité. Une heure plus tard, Belgodère entrait dans la mystérieuse maison où, le lendemain soir de son arrivée à Paris, il avait conduit Violetta, croyant la livrer au duc de Guise.